1,
9h, 11h,
Wendy Bouchard. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble avec Julie pour faire le tour de la question. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
On va entendre des jeunes qui ont eux-mêmes écouté hier et questionné Emmanuel Macron en Saône-et-Loire. Est-ce la politique comme ils la conçoivent ? Pourquoi les présidents ont tant de mal à s'adresser finalement à la jeunesse et en faire une vraie priorité dans les faits ? Eh bien nos invités réagissent, les jeunes s'expriment aussi au standard d'Europe 1. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire les jeunes ? Eh bien on fera le tour de ce sujet jusqu'à 10h. N'hésitez pas, on vous attend, le standard est ouvert.
Le 39-21.
Et puis à 10h, on va se faire plaisir. On va écouter de la musique du moment, car ce soir sur France 2, vous pourrez suivre en effet les 34e victoires de la musique. Angèle, Bernard vous en parlait, Vanessa Paradis, Big Flo et Oli, Alain Chamfort, Aurel San, Chaka Ponk. Dans cette liste de nommés, vous devez ignorer certains noms. Et bien c'est pour nous le moyen de vous faire partager cette nouvelle scène musicale. On est ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1 et on est bien.
9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec nos invités, Stéphane Rosès, politologue, président de la société Conseil, Analyse et Perspectives. Bonjour, bonjour Stéphane. Avec Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Jérémy Pelletier.
Bonjour.
On va parler des jeunes, on va les entendre dans un instant. Mais d'abord, si vous voulez bien, ces mots d'Emmanuel Macron. Le permis de conduire, la réforme du lycée, les filières industrielles, la place du handicap à l'école. Voilà pendant 4 heures quelques-uns des nombreux thèmes abordés hier lors de cet échange entre ce président et un millier de jeunes de Saône-et-Loire avec un envol à la fin de ces 4 heures de marathon.
Je souhaite, je veux et j'ai besoin que la jeunesse de notre pays, elle fasse de la politique. Par contre, je note comme vous, dans les discours, le fait qu'il y a une forme de désintérêt. Mais parce qu'on confond deux choses, il y a un désintérêt pour la vie politique. C'est-à-dire pour la manière de le faire peut-être, les gens qui la font, aujourd'hui, les sujets qui sont mis en avant. Mais là, j'ai envie de vous dire, faites-le. C'est pas une propriété, c'est pas une profession réglementée. Vous n'avez juste pas droit de me dire « ça m'intéresse pas ». Vous avez le droit de me dire « je n'aime pas la façon dont on le fait aujourd'hui ». Je n'aime pas ces discours, je n'aime pas ces décisions-là. Je n'aime pas même toute la classe politique telle qu'elle l'a fait aujourd'hui. C'est votre droit le plus... Mais vous n'avez pas le droit de me dire « je ne m'intéresse pas à la politique ». Parce que quelque part, ça veut dire « ma vie, mon futur ne m'intéresse pas ».
Et bien voilà les mots qui vont nous guider pendant une heure. J'ai choisi cet extrait-là à la fin de cet échange parce que je le trouve assez représentatif et assez juste finalement du constat, Jérémy Pelletier, on peut peut-être commencer avec votre analyse à vous, pour la Fondation Jean Jaurès, ce désintérêt de la politique, de la chose politique et de l'offre politique du moment. Les jeunes sont des citoyens quand même comme les autres.
Absolument, les jeunes sont des citoyens comme les autres. Bon, c'était important de s'adresser à eux, commencer à monter effectivement la petite musique que pour le moment les jeunes n'étaient pas intégrés au grand débat national. Ce qui est certain, c'est que si on analyse un peu la sociologie des personnes qui pour le moment participaient au grand débat, effectivement on était plutôt avec des seniors, avec finalement des personnes assez classiques qui participent au débat public et au débat politique. Après, quand le président dit vous n'avez pas le droit de ne pas vous intéresser à la politique, il y a aussi un autre élément. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est même le rapport à la démocratie de la jeune génération qui est interrogé. Dans les enquêtes, on s'aperçoit que vous avez à peu près 30% des Français qui considèrent par exemple que d'autres systèmes pourraient se substituer à la démocratie. Si vous interrogez uniquement les moins de 35 ans, vous êtes à 46%.
Donc, quel autre
au-delà
système
même, au-delà même, ça peut être un système autoritaire ou en tout cas, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de tentation à un petit système autoritaire de la part d'une certaine partie de la jeune génération. Et donc, au-delà même du sujet intérêt à la politique, c'est aussi l'intérêt même à la démocratie qu'il faut interroger et que je crois que le président a interrogé hier aussi.
On va revenir sur la présence des jeunes dans ce grand débat, Stéphane Rosès, mais d'abord, les jeunes et Emmanuel Macron, c'est un programme aussi. C'était pas le candidat de cœur des jeunes qui ont voté à la présidentielle en 2017, Stéphane.
Non, effectivement, mais au fond, le rapport d'Emmanuel Macron à l'égard des jeunes n'est pas vraiment plus dégradé que ses prédécesseurs. En tout cas, si on pense à Nicolas Sarkozy, le rapport était, lui, très dégradé, notamment lorsqu'il y a eu le moment des révoltes des banlieues, où au fond, et on en revient au fond qui a été évoqué, au fond, les jeunes sont très divers socialement, mais ce qu'ils ont en commun, c'est de constater que leurs aînés ne leur ont pas préparé une société en état de marche, comme eux-mêmes, leurs aînés, nous, en avons profité. Mm-hmm. De sorte que les jeunes n'acceptent absolument pas, même s'ils sont en désaccord avec des jeunes, par exemple, sous Nicolas Sarkozy qui brûlaient des voitures, ils n'acceptent absolument pas que des personnes de la génération adulte, qu'ils considèrent comme co-responsables de leur difficulté de s'intégrer, viennent trier le bon grain de l'ivraie. Donc, de façon générale, disons, le rapport d'Emmanuel Macron n'est pas beaucoup plus dégradé que ses prédécesseurs. Par contre, il y a une spécificité française dans le rapport des jeunes à la politique, contrairement aux autres pays, c'est que les jeunes n'aiment pas être parqués et considérés comme une catégorie à part. Parce qu'ils veulent s'intégrer comme les autres. Ils veulent, comme tous les citoyens, qu'on comprenne leur situation. Mais ils n'aiment pas du tout être considérés, je dirais, comme les adultes. Ou
En devenir. Qu'est-ce qu'il faudrait dire alors pour s'adresser à eux, si ce n'est pas les jeunes ?
Il faudrait dire justement ce que n'a pas fait le président, parce que là on vient d'entendre le président professeur d'histoire ou d'éducation civique, comme on a entendu le président coach, assistant de vie. La vocation dans un pays comme le nôtre, pour l'ensemble des Français, à fortiori les jeunes, c'est qu'ils disent « voilà la France que je suis en train de construire pour demain ». Voilà. Et c'est à cet exercice qu'au fond, le président s'exonère. Et au fond, c'est le problème du divorce au moment des Gilets jaunes entre lui et le pays. Mmh. Hein, puisque lors des Gilets jaunes, il y a deux dimensions. Il y a la fiscalité et il y a l'absence, à partir de cet été, de ce qu'il avait dit lui-même, c'est-à-dire de récit de la souveraineté. Il avait dit le premier mandat qu'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. C'est quoi la souveraineté de la nation ? C'est que le politique puisse maîtriser le destin. Or, il avait là des jeunes qui étaient vraiment la catégorie où ils pouvaient rentrer sur le fond du divorce qui s'est installé avec les Français à partir de cet été.
Absolument, très juste analyse. De toute façon, on retournera un petit peu en arrière pour sonder un peu les liens entre les prédécesseurs d'Emmanuel Macron et les jeunes. Quand j'entendais le rapport compliqué des jeunes et d'Emmanuel Macron, je sous-entendais qu'il n'est arrivé qu'en troisième position élective derrière Jean-Luc Mélenchon, derrière Marine Le Pen. C'était pas le candidat, bien que sa jeunesse était là, qui représentait le mieux la jeunesse pour les jeunes, hein.
Oui,
Jérémy Pelletier.
Non, vous avez raison. Comme on a beaucoup dit, de façon fausse, que Emmanuel Macron avait réussi à récupérer des électeurs qui étaient désengagés de la vie politique. C'est pas vrai. Quand on s'aperçoit la sociologie de son électorat, on s'aperçoit évidemment que c'était plutôt des Français politisés qui adhéraient d'ailleurs pour un certain nombre déjà des partis politiques par le passé. Et pour la jeune génération, c'est la même chose. Effectivement, quand on regarde le premier tour de l'élection présidentielle, chez les 18-24 uniquement, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête, 31%. Marine Le Pen arrive juste après. À eux deux, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon obtiennent plus de 50% chez les 18-24 et d'ailleurs même chez les moins de 35. Donc évidemment, ce n'était pas le candidat de la jeunesse. On s'en aperçoit et on s'en est aperçu au moment de la présidentielle.
Il était face à eux, en tout cas, hier en Saône-et-Loire. Et on va en dans un instant Charlie. Il a interpellé le président. Charlie a 18 ans, il est en apprentissage au CFA bâtiment d'Autun et il prend la parole dans un instant. Je lui demanderai ce qu'il a pensé de cet échange, de ce face-à-face avec le président Macron. Et n'hésitez pas, vous êtes lycéen, vous êtes étudiant, vous souhaitez aussi mener des grands débats, les installer dans vos établissements, et bien dites-le nous au Standard de Rempart. On vous attend avec Julie.
Au 39-21. Emmanuel Macron s'est adressé aux jeunes hier en Bourgogne. Était-ce une opération séduction ou la reprise en main d'une génération silencieuse ? Wendy Bouchard.
On fait le tour de la question sur les présidents face à la jeunesse, ce qu'on appelle les jeunes. On va entrer dans le détail dans cette catégorie. Les jeunes n'aiment pas d'ailleurs être catégorisés, ciblés, nous disait Stéphane Rosès à l'instant, politologue, enseignant à Sciences Po et HEC. Jérémy Pelletier est avec nous, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Et dans cet échange, je vous demande d'accueillir Charlie. Bonjour Charlie.
Oui, bonjour.
Charlie Siwek, vous êtes en deuxième année d'apprentissage pour obtenir un brevet professionnel en monteur, installateur en génie climatique et sanitaire. Vous êtes au CFA Exactement. Bâtiment d'Autun, Charlie. Je vous remercie d'être avec nous parce qu'hier, vous étiez bien dans la salle avec ce millier de jeunes face au président. Comment vous avez vécu cet échange avec Emmanuel Macron, Charlie ?
C'était un échange riche. Il a su répondre à nos questions qu'on attendait et il a exactement dit ce qu'on voulait entendre. Après, on reste à voir au fur et à mesure des années si tout ce qu'il nous a dit hier va se faire.
Ça veut dire quoi, ce que vous vouliez entendre ?
De relancer l'apprentissage, que l'apprentissage soit plus valorisé à partir du collège.
Oui.
Et puis pas orienter, on va dire, tous les jeunes soit vers une filière professionnelle, donc toujours en lycée, on va dire, sans apprentissage,
oui.
soit vers un lycée général et prouver, on va dire, aux jeunes que c'est une filière comme les autres.
Ça, c'était en plus votre question, Charlie. Il faut que vous expliquiez aux auditeurs que vous avez eu des difficultés, vous, à intégrer cette filière apprentissage parce que vous étiez un bon élève et qu'on vous parlait de l'apprentissage comme une voie de garage. Ça vous a énervé. De toute façon, c'était votre sentiment, votre conviction. Donc, vous avez quasiment lutté et insisté pour faire cette filière. Et donc, vous souhaitez qu'elle soit revalorisée aujourd'hui.
Oui, exactement. Parce qu'en fait, on va dire, aujourd'hui, un bon élève, il faut qu'il suive le cursus scolaire, qu'il aille... En général, on va dire comme tout le monde, alors que non, bah, si on va dire moi je savais ce que je voulais faire, bah, faut laisser, on va dire, le jeune choisir ce qu'il veut faire, le laisser faire ce qu'il a envie de faire, et puis quand ça lui plaît, bah, moi aujourd'hui je vois, je suis complètement épanoui dans mon métier, je suis super content de faire ce que je fais aujourd'hui, et puis j'aurais été très déçu qu'on me laisse pas faire ce que je voulais faire.
Voilà, vous avez suivi votre conviction, votre intuition, Charlie. Vous avez entendu le président, je repassais un petit extrait, les jeunes ne doivent pas être absents du débat politique, ils doivent prendre en main leur destin. Tout ça, est-ce que ce sont des mots pour vous ou vous comprenez ce que le président veut dire derrière?
Ben oui, parce que là, ben, déjà avant, en fait, on va dire, on n'écoutait pas trop les jeunes dans les anciens présidents. Après, M. Macron, hier, il a su nous écouter. Et ce qui était formidable, ben, c'est qu'il nous a répondu à la plupart de nos questions. Donc, oui.
Est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué en dehors de sa réponse sur l'apprentissage?
Le moment qui m'a marqué, ben, c'est que, ouais, on va dire, tout sur, ils ont abordé le thème d'autisme. Et puis, en fait, ben, il y a une fille qui a très bien parlé là-dessus. Et oui, c'était un thème extrêmement marquant, on va dire, parce qu'il a essayé. Il a dit qu'ils allaient ici venir les intégrer à la société.
La place du handicap aussi, voilà, à l'école en particulier. Vous avez discuté, Charlie, j'imagine, à l'issue de ces 4 heures d'échange. C'est beaucoup 4 heures, hein. C'est plus qu'un cours magistral, mais ça vous a plu manifestement. Les réactions étaient plutôt positives dans la salle?
Ben, les réactions, oui, étaient plutôt positives. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de voir à la fin de son mandat, refaire, s'il aurait le temps, ben, refaire exactement pareil de ce qu'on a fait aujourd'hui et voir ce qui s'en dit et ce qui était changé surtout.
D'ici la fin du mandat, il y a le 26 mai, les élections européennes. Vous irez voter, vous?
Oui, j'irai voter.
Et vous pensiez déjà à aller voter avant cet échange avec le président?
Ben, je pensais déjà aller voter, oui, parce que l'opinion des jeunes dans la société aujourd'hui est très importante, parce que sans les jeunes, on va dire, on a l'avenir de demain, donc voilà.
Charlie, vous restez avec nous et je vais vous faire réagir nos invités à vos propos. Stéphane Rosès, d'abord, importance, c'est vrai, de la filière apprentissage, de cette formation professionnelle. Ensuite, alors ça, c'est quelque chose quand même qui traverse les mandats, les quinquennats. Nicolas Sarkozy en avait parlé, François Hollande en avait parlé. Emmanuel Macron fait sa priorité, on attend de voir.
Oui, d'ailleurs, le témoignage de Charlie est très intéressant parce que complètement à contre-courant. Donc, il faut saluer, vous l'avez fait, son obstination. C'est un élève qui a réussi et qui pense sans doute qu'il n'y a pas de meilleure connaissance que basée sur le geste et l'expérience, à juste titre. C'est, par exemple, tout à fait l'attitude de nos amis allemands. Or, le rapport des Français à l'orientation est un rapport marqué par nos représentations culturelles anciennes où, au fond, un peu comme à la façon cartésienne, l'esprit serait séparé du corps. Il faudrait toujours avoir une conception où il y a des filières d'excellence et où à l'école même, le seul fait que des conseillers d'orientation ou professeurs disent « on va vous orienter », c'est vécu comme « on va vous mettre dans des filières rebuts ». Et là, on touche à des questions culturelles profondes. Et vous avez raison, très souvent, les ministres, y compris de l'éducation, ont essayé de faire les choses. Mais les parents, l'environnement social, au fond, font pression sur les enfants, à fortiori, s'ils résistent, pour dire, voilà, il faut faire S, si tu n'arrives pas à faire S, bah, enfin, si tu n'arrives pas à faire maths, bon, ça va être économie, voilà. Donc, il y a une conception dégradée. Moi, qui ai dirigé une entreprise, je vois à quel point ensuite, quand les jeunes arrivent à l'entreprise, ils sont pas, il n'y a pas une employabilité de ceux qui ont fait les filières nobles. Parce qu'au fond, on leur explique ce qu'est une entreprise, ce qu'est un collectif, ce qu'est une création de valeur. Et donc, il faut tout de suite repérer, pas seulement la personne qui comprend les choses, mais la personne qui est capable, je dirais sensiblement, de comprendre le corps social dans lequel elle s'intègre. Et là, effectivement, Charlie, je lui tire mon chapeau parce que voilà, je lui tire mon chapeau effectivement parce qu'il est tellement à côté des mécaniques d'attitude première que je pense que dans sa vie professionnelle, il sera très heureux parce que il va pouvoir comme ça se déployer dans la vie en étant épanoui professionnellement.
Voilà, c'est le petit message de notre invité du vendredi matin, Charlie. Voilà. C'est pour vous.
Merci bien.
Et vous êtes, voilà, vous faites honneur aussi à cette filière et vous êtes un bel ambassadeur aujourd'hui. Jérémy Pelletier, sur les mots de ce jeune homme de 18 ans en apprentissage aujourd'hui.
Oui, il y a deux choses qui me frappent. Évidemment, je partage ce que vient de dire Stéphane Rosès. Mais il y a deux mots qui me frappent dans ce qu'a dit Charlie, c'est le mot épanouissement d'une part, et après ce qu'il dit sur, on verra quand même à la fin du quinquennat si ce qu'il nous a dit sera suivi des faits.
En fait, bon, ça, parce que aussi c'est tout le discours politique ambiant.
Bien sûr. Mais ce qui est très intéressant avec cette génération, c'est que finalement c'est une génération qui a intégré que c'était une génération de la crise et que c'était une génération du descenseur social, que c'était une génération de la panne de l'ascenseur social. Ça, je pense que cette jeune génération-là, et notamment les moins de 35 et les 18-24, ont intégré cela. Ils ont vu leurs parents peut-être partir de l'entreprise. Et de fait, je crois que c'est une génération qui accorde peu de confiance aux figures, je dirais, d'autorité traditionnelle, que ce soit un chef d'entreprise et évidemment que ce soit des responsables politiques. Je dirais, c'est une génération qui fait preuve d'un optimisme individuel, mais d'un pessimisme assez collectif. Oui. Et donc, c'est une génération finalement qui dit mon salut ne viendra que de moi-même et pas des responsables politiques, etc. Donc, ce qu'il dit sur, on verra à la fin si ce qu'il dit est suivi des faits, c'est de toute façon, on sait que nous, notre salut viendra de nous-mêmes, viendra dans notre action. C'est dans les grandes enquêtes qui sont faites, il y a une grande enquête qui a été faite auprès de cette jeune génération qui s'appelait Generation What. Mmh. Et on voyait que cette jeune génération était très en phase avec la phrase « quand on veut, on peut ». Oui. Et donc, voilà.
Oui, mais c'est intéressant, Charlie. Et je vous laisse après. Je ne sais pas si vous avez cours ce matin, d'ailleurs. Mais
j'étais en cours, oui.
Ouais, pardon, voilà. Donc, je vais vous laisser filer.
Il n'y a pas de souci.
Simplement, vous n'étiez pas en âge de voter pour Emmanuel Macron. Vous n'étiez pas encore majeur. Quand vous dites « on verra bien après », ça veut dire que vous avez quand même confiance, vous, dans le personnel politique, dans la représentation, ou en effet, comme dit Jérémy Pelletier, vous faites d'abord confiance, vous, à votre force au travail et pas forcément à la politique.
Après, on a toujours, on va dire, là, comme hier, ils nous ont parlé, la ministre du Travail a beaucoup parlé d'apprentissage, Emmanuel Macron aussi. Ils nous ont dit que c'était une voie comme une autre, que c'était la meilleure façon d'apprendre tout ça. On va dire que c'est toujours valorisant. Après, oui, de toute façon, aujourd'hui, on ne peut compter que sur soi-même. Donc, voilà, quoi.
Bon, alors continuez de travailler, surtout. Merci Charlie Siwek et je remercie David Pipogno qui est journaliste au journal Saône-et-Loire et qui nous a permis de remonter jusqu'à vous parce que vous étiez bien nombreux autour du président. Tout à l'heure, nous recevrons un autre jeune. Il est titulaire d'un bac ES, étudiant en première année de fac. Il a participé également au grand débat. Il nous en dira davantage sur les jeunes face à la politique. On poursuit ce tour de la question avec nos invités Stéphane Rosel, Jérémy Pelletier. Vos réactions au standard d'Europe 1 Julie.
Au 39-21. À tout de suite. Pourquoi les présidents de la République ont toujours eu du mal à construire une relation durable, une relation de confiance avec la jeunesse? Emmanuel Macron peut-il reconquérir les jeunes? On en parle jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard.
Ouais, c'est intéressant de revoir ces images depuis hier après-midi du plus jeune président de la 5e République échanger avec un millier de jeunes. Alors on a beaucoup de témoignages sur Twitter, je vous en lirai régulièrement, mais je reviens sur ce que nous demandait Caroline. Question toute bête, Caroline, sur le hashtag Europe 1. Mais quelle tranche d'âge les instituts de sondage et les journalistes appellent-ils les jeunes, justement? Jérémy Pelletier.
Il y en a plusieurs, je pense que Stéphane Rosas pourrait... Ouais, il y a les 18-24 et il y a les moins de 35, en fait, ça dépend. Il faut juste affiner quand on en parle. Mais bon, très souvent, c'est quand même les 18-24. Quand on parle de Jean-Luc Mélenchon qui arrivait en tête de la présidentielle avec la jeune génération, c'est les 18-24, c'est la génération et la tranche d'âge des 18-24.
Les 18-25 ans qui étaient hier en Saône-et-Loire face au président.
Hier, ils affichaient 15-25.
Apprentissage, en l'occurrence.
Oui, 15-25 il faut dire à la jeune auditrice que quand elle s'adresse à des journalistes, des politologues, des sondeurs, souvent leur référence, ce sont les sondages. Donc, ça commence à 18 ans parce qu'ils commencent à travailler, ces instituts, à partir de l'âge de voter en général. Mais des fois, quand les études sont auprès des jeunes eux-mêmes, alors là, ça peut commencer effectivement à 16 ans, voire quand c'est des études pour le ministère sur l'orientation, beaucoup plus tôt. Mais derrière la question, il y a sans doute effectivement la question des âges. Et puis, les jeunes sont conscients qu'il y a de très grandes différences sociales en leur sain.
Voilà. Katia va réagir dans un instant. Elle nous appelle de Saint-Ouen en 39-21. Je voudrais que vous écoutiez ce que disait chez nos confrères de France Inter le Premier ministre Édouard Philippe il y a quelques jours.
Moi, j'ai l'impression, c'est une impression, hein, j'ai l'impression que la jeunesse, c'est un angle mort du grand débat. Ce que je sais, c'est que ce serait terrible si un grand débat national ne prenait pas en compte ce que disent ceux qui ont entre 16 et 30 ans. Ce serait une folie.
Oui, alors je ne sais pas si il a aiguillé le président Macron pour cette rencontre avec les jeunes. On ne sait pas exactement l'état des relations entre le président et son Premier ministre à l'heure actuelle, mais c'était un ressenti exact. Hein, et vous le disiez en préambule, Jérémy Pelletier.
Absolument, c'était un ressenti exact. Après, il faut aussi le comprendre, quand vous regardez les taux de soutien au mouvement des Gilets jaunes, parce qu'évidemment, il faut rappeler, le grand débat vient après l'irruption et l'émergence de ce mouvement. Bon, vous aviez à peu près 60-65% de la population qui était en soutien encore du mouvement en décembre dernier. Si vous regardiez juste les moins de 35, vous étiez à un peu plus de 50%, ce qui est quand même beaucoup plus faible. Mmh. Et si vous regardiez uniquement les 18-19, 18 ans, 19 ans, vous étiez à 30% à peu près de soutien à ce mouvement.
Ah, c'est tout.
Mais parce qu'il y a quelque chose qui est assez clair, ouais. C'est que les revendications, à savoir les revendications liées au pouvoir d'achat, sont d'abord avant tout des choses qui concernent les actifs, évidemment,
bien
et
sûr.
Les personnes retraitées. Donc, de fait, les jeunes n'étaient pas concernés de prime abord par ce qui était mis en exergue par le mouvement des Gilets jaunes, avec une différence, c'est qu'on voyait une nette différence de soutien entre les jeunes, ce qu'on appelle de la France périphérique, des territoires loin des métropoles, plutôt dépendants de la voiture, et les jeunes issus de la France des métropoles. Là, on voyait une nette différence dans le taux de soutien au mouvement.
Stéphane Rosès.
Alors, il y a la dimension sociale qui est indiquée à juste titre. Effectivement, par Jérémy Pelletier, il y a l'autre dimension, parce qu'au fond, dans ce mouvement des Gilets jaunes, il y a deux dimensions liées. Il y a les questions sociales, à partir de la question de la fiscalité, et puis une étude faite auprès des Gilets jaunes sur les réseaux sociaux, je crois que vous l'avez relayé, dit il y a deux sujets. Il y a la souveraineté nationale et il y a la justice fiscale et sociale. Alors, quel est le sujet des jeunes ? Le sujet des jeunes, il est tout entier d'abord s'intégrer à la société. Alors que quand la société, au travers des Gilets jaunes, interpelle le président sur la souveraineté en disant grosso modo, hey, ce que tu fais, c'est à partir de ce que nous sommes nous, la nation, ou c'est d'autres considérants, d'autres forces et tout. Bon, là, il faut déjà être relativement inséré dans la société, déjà. Il faut avoir un rapport à la citoyenneté suffisamment élargi pour poser ces questions. Donc il y a sans doute dans le décrochage des jeunes à l'égard des Gilets jaunes, à la fois des questions sociales, les questions de souveraineté, tout à fait liées. Par exemple, il y avait une pancarte qui disait « Macron nourrit ton peuple ». Il y a « nourri ». C'est la question sociale et fiscale. Et ton peuple, c'est la question de la souveraineté. Comme sous l'ancien régime, il y aurait eu Louis, le souverain, nourrit ton peuple.
Macron,
les deux sont mes dieux.
Qui appelle souvent les gens mes enfants, d'ailleurs.
Ce qui laisserait entendre qu'il est un père, mais aux enfants, il a dit, les réformes, ça contraint, c'est pas open bar, les enfants, quelque chose comme ça.
C'est ça.
Or, quand il dit les enfants, ça voudrait dire que lui soit un père. Moi, je suis un père. Je ne dis jamais à mes enfants de ployer comme moi, je ploierais, comme nous, on devrait tous ploire, sauf si je dis la raison supérieure qui fait qu'un père doit ployer devant quelque chose. Et ça, il ne le fait pas. Donc, dans sa phrase, il y a une contradiction intime où il est dans la posture du père vis-à-vis des enfants, sans en assurer, je dirais, la responsabilité paternelle qui est de dire, justement, s'il y a des contraintes, et dans la vie, il y a des contraintes, on le sait quand on a des enfants, on ne peut pas tout faire, mais alors, il faut expliquer pourquoi le père est obligé de ployer et non pas demander aux enfants de mimer un père qui ne dirait pas les raisons pour lesquelles
c'est,
il ploie.
C'est rare d'entendre ce verbe à la radio, je vous remercie, de l'employer Stéphane Rosès. Je reviens sur ce que vous disiez,
de l'employer,
de s'intégrer à la société pour les jeunes, mais ils ne le font pas à travers le vote. Quand on regarde l'étude INSEE pour 2017, moins d'un électeur sur 5 de moins de 29 ans a voté aux différents tours des élections en 2017. Donc il y a une désaffection, un désengagement, et on le sait bien, on le voit dans les différentes 74% de taux d'abstention pour la présidentielle chez les jeunes.
Absolument, on avait 70% au second tour des législatives. En fait, c'est une génération intermittente. intermittente dans ses engagements. Mmh. D'ailleurs, on en parlera sans doute dans ses engagements associatifs. Voilà, c'est pas une jeunesse qui est désengagée des milieux associatifs et au sein des associations, mais c'est une jeunesse intermittente, donc qui peut passer 2 ans dans une structure, 2 ans dans une autre. Et c'est la même chose pour le vote. C'est une jeunesse et une génération intermittente aussi dans sa façon de voter. Je voulais juste revenir sur les thèmes, du coup, peut-être abordés malgré tout dans le grand débat, qui peuvent concerner une partie de la jeunesse. Je crois qu'a été abordé hier, pendant le grand débat, la question de la mobilité. Je pense que c'est une question centrale qui a été abordée par beaucoup de jeunes. Évidemment, le territoire n'était pas anodin. Le territoire choisi, c'était un territoire rural, évidemment, de Saône-et-Loire. On était dans les villes de moins de 20 000 habitants concernés justement par ces questions de mobilité. Et sur la jeunesse qu'on appelle la jeunesse de la France périphérique, c'est une question qui est centrale parce qu'on parle beaucoup souvent de la jeunesse de quartier assignée à résidence. Mais pour la jeunesse de ce qu'on appelle la France périphérique, c'est la même chose et c'est les mêmes difficultés liées à la mobilité, à l'assignation.
La diagonale du ville, la fameuse Katia est avec nous, 39-21. Dans un instant, ainsi que Loïs, titulaire d'un bac ES, étudiant en première année de fac. Il était face à Emmanuel Macron. On poursuit ce tour de la question. La jeunesse, dans tous ses états aujourd'hui, est à des lieux en 2019.
Emmanuel Macron rencontrait hier en Bourgogne 1000 jeunes de 15 à 25 ans pour discuter études, emploi et citoyenneté. Les commentaires ce matin de Stéphane Rosès, qui est en studio avec nous, politologue, enseignant à Sciences Po et HEC, président de la société Conseil, Analyse et Perspective. Et face à lui, Jérémy Pelletier, qui est directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, une fondation politique, sociale et démocrate. Wendy Bouchard.
Et pourquoi les jeunes ne croient plus vraiment dans leurs responsables politiques? Est-ce qu'on peut dater ce désamour, cette fracture? On va regarder un petit peu l'histoire de la 5e République. Avant de vous entendre, messieurs, je voudrais qu'on accueille Katia qui nous appelle de Saint-Ouen au 39-21. Bonjour Katia.
Bonjour.
Bonjour. Alors vous n'étiez pas avec le président Macron hier, hélas pour vous ou pas? Vous auriez aimé l'interpeller par exemple?
Non. Je non. Pense pas. Après, ça dépend en fait. Quand on écoute quelque chose, on peut se permettre. Mais là, vu ce que j'ai entendu, je pense que je ne serais pas. J'aurais pas pris la parole.
D'accord. Et alors, votre conviction et votre sentiment face à cette relation entre ce qu'on appelle les jeunes, cette catégorie, voilà, qu'on a du mal à définir, et les politiques, qu'est-ce qu'elle vous inspire, Katia?
Je trouve ça assez paradoxal comme discours. En tout cas, venant des politiques et des gouvernants surtout, parce qu'on nous dit constamment qu'il faut avoir de l'intérêt pour la politique, pour la chose publique, etc. Mmh. Et en fait, quand les jeunes en tout cas prennent la parole pour ce genre de choses, ils sont pas tellement entendus. Et quand je dis prendre la parole, je parle absolument pas de blocus ou de choses comme ça. Oui. Aussi
radicaux.
Oui, c'est ça, c'est assez radical et c'est pas forcément prendre la parole que de casser des tables et des chaises. Mais en vrai, on a un peu l'impression, en tout cas c'est mon ressenti personnel, d'être simplement un bulletin de vote à un moment donné et que notre adhésion peut changer la donne, mais qu'en dehors de ça, c'est finalement parler donc, on verra plus tard et finalement on ne voit jamais rien. Et que ce soit pour les jeunes ou pour d'autres catégories sociale, mais les gens ne sont pas forcément écoutés. Mmh. Et nous, on nous force un peu, entre guillemets, à « Allez, faites de la chose politique, ne vous désintéressez pas, c'est votre avenir et tout ça. » Et les choses ne sont pas entendues. Donc c'est un discours un petit peu paradoxal.
Ouais, et c'est intéressant de vous entendre en parler ainsi, Katia, vous qui êtes étudiante en histoire et en sciences politiques. Hein, donc c'est dire aussi que vous êtes intéressée par notre mémoire, notre patrimoine et notre envie justement d'avancer ensemble, Jérémy Pelletier. Katia, vous pouvez échanger avec elle. Hein, c'est intéressant.
Absolument très intéressant ce que dit Katia sur le paradoxe. En effet, elle dit finalement on ne voit rien venir. Je répète ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est une génération qui a intégré que son salut viendrait de ses propres actes, de ses propres faits.
Mais quel est l'intérêt d'Emmanuel Macron? C'est pas pour les européennes, il va pas draguer la jeunesse juste pour le 26 mai?
Non, je crois qu'il voit bien que c'est une jeunesse qui évidemment s'est désintéressée de la politique. Vous posiez la question de la façon dont on pouvait dater peut-être je dirais la rupture entre la jeune génération et la vie politique. Ce qui est certain, c'est qu'on peut dater en gros le moment où les jeunes ont refusé de se positionner sur un axe gauche-droite. En gros, il y a 15 ans, les 18-24 étaient foncièrement de gauche. Quand on leur demandait, est-ce que vous pouvez vous positionner sur un axe gauche-droite ? Est-ce que vous êtes plutôt de gauche ?
C'est-à-dire avant Jacques Chirac ou jusqu'à Jacques Chirac ?
Est-ce que vous êtes plutôt de gauche ? Est-ce que vous êtes plutôt de droite ? Les jeunes foncièrement se positionnaient à gauche, étaient en capacité de dire, je me positionne comme un individu de gauche. Mmh. Aujourd'hui, en 15 ans, on est passé d'une jeunesse de gauche à une jeunesse qui est plutôt niniste, qui refuse de plus en plus de se positionner sur une échelle gauche-droite. Ce n'est pas les seuls, évidemment, sur l'échiquier politique, mais c'est intéressant, du coup, de noter cela.
Et est-ce que c'est votre cas juste, Katia ? Est-ce que vous êtes capable, vous, de vous situer sur l'échiquier politique facilement ?
Pas du tout. Après des études en sciences politiques, justement, en fait, je m'attendais à être beaucoup plus ferme sur mes idées. Mmh. Et maintenant, je suis incapable de me placer sur ce grand échiquier politique parce qu'il y a un grand désintérêt pour la chose même, en fait.
Mais vous avez conscience, évidemment, du vote. mais vous pourriez voter blanc, par exemple, vous, comme citoyenne ?
Oui et non. Mmh. Parce que c'est une façon d'exprimer le fait qu'on n'est pas convaincu par ce qu'on nous propose. Et non, parce qu'en France, ce n'est pas quelque chose qui est encore assez considéré comme un refus de toutes ces propositions. Donc, c'est un peu voter blanc dans le vide. Mmh. Donc, c'est doublement inutile.
Jérémy Pelletier, pour poursuivre.
Non, mais alors, sur le vote blanc, il y a une question intéressante. Évidemment, on dit pourquoi Emmanuel Macron a été s'exprimer auprès des jeunes hier. Évidemment, parce qu'il n'était pas pour le moment concerné par le grand débat. Et on l'a dit, le décalage avec la vie politique. Il y a une question, il y a une proposition qui revient souvent dans les propositions du grand débat national, c'est la question du vote obligatoire, qui aurait un intérêt notamment pour la jeune génération si on considère qu'elle va s'abstenir élection après élection, c'est que ça obligerait, je crois, les responsables politiques pendant leur campagne électorale, notamment pendant leur campagne présidentielle, à s'intéresser à tout le monde et à faire campagne auprès de tout le monde et pas uniquement auprès des publics qui votent. C'est la même chose pour les quartiers,
ça
évidemment.
Ça soutient l'idée de devoir, en tout cas.
Absolument. Ouais. Et du coup, je dis vote obligatoire, mais évidemment, ça doit se corréler avec une autre proposition qui est l'intégration du vote blanc en tant que suffrage exprimé. Mais le vote obligatoire pour obliger les responsables politiques à aller parler aux jeunes parce qu'ils savent très bien que ces jeunes-là vont voter demain et ne vont pas s'abstenir, ça serait une idée, je crois, intéressante.
Bah, merci, Katia, en tout cas, de votre sentiment d'étudiante. Merci d'avoir pris la parole au 39-21. Je fais réagir dans un instant Stéphane Rosès. On poursuit notre tour de la question sur les présidents face aux jeunes. Loïs est avec nous juste après la pause. Il veut nous dire ce qu'il retient de cet échange avec le président Macron. C'était hier soir en Saône-et-Loire. Tout de suite.
Jusqu'à 10h, le tour de la question sur les présidents de la République face aux jeunes. Wendy Bouchard.
Pourquoi ces relations si compliquées, finalement ? Est-ce difficile, si difficile, quand on est politique, de parler à la jeunesse, entre guillemets ? De Valéry Giscard d'Estaing à François Hollande, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy. On va remonter quelques instants le fil de ces discours à la jeunesse. Nous sommes Stéphane Rosès et Jérémy Pelletier en 2012 et le président sortant, Nicolas Sarkozy, ravive la flamme. Il la veut, en tout cas, raviver face aux jeunes militants. Écoutez.
Vous avez 20 ans et vous avez un monde nouveau à inventer. La génération de la guerre, elle, a fait la paix. Elle a fait la décolonisation. Elle a construit l'Europe. Elle a permis les 30 Glorieuses. Elle a inventé la sécurité sociale. Elle a choisi le progrès. Elle a donné le droit de vote aux femmes qui n'existaient pas avant cette génération.
Ah, et nous, jeunes, on se dit, bah oui, qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire, Stéphane Rosès ? L'histoire pour éclairer l'avenir. Vous allez réagir à ces propos si vous le souhaitez, et je vous pose la question annexe. Quel fut pour vous le dernier président qui a su bien parler à la jeunesse et la séduire, en l'occurrence ?
Jérémy Pelletier a dit que longtemps, les jeunes étaient ancrés à gauche. Mmh. Ensuite, ils sont allés effectivement plutôt vers les marges. Non pas du tout qu'ils soient révolutionnaires ou en soient révoltés, mais ils essayent de faire bouger les choses. Et l'intervention tout à l'heure, je crois, de Katia était passionnante, parce qu'on dit aux jeunes, faites de la politique, mais une fois que les gouvernants sont au pouvoir, c'est, ben, y a des logiques, y a les marchés, y a l'Europe, il faut faire ça, pour survivre, il faut peut-être renoncer un peu à ce qu'on est. Et donc, du coup, elle avait raison, on est dans l'injonction contradictoire. Donc, il faut remonter un peu loin dans le temps pour voir que, au fond, la politique, et a fortiori pour les jeunes, c'est une dispute commune. Bon. Pour qu'il y ait une dispute commune, comme on fonctionne comme ça depuis des siècles, pour nous assembler comme Français, il faut qu'il y ait du commun, c'est-à-dire il faut que les politiques puissent dire « voilà où on va », par exemple, et ensuite on se dispute sur le contenu de « voilà où on va ». Mmh. Or, que ça soit Nicolas Sarkozy qu'on vient d'entendre, ou que ça soit le président Macron, ils ne disent pas là où on va. Ils disent aux jeunes, remuez-vous, c'est vous qui. Oui. Mais ils ne se comportent pas comme des pères ou des mères. Ils sont un peu irresponsables. Ils demandent aux jeunes qui arrivent, eux, au fond, de prendre leur part d'un monde qui échapperait et qui, en dernière instance, serait le monde des techniciens, des experts, des marchés, des chiffres, des nombres. Bref.
Et c'est le discours qu'il a martelé hier, Emmanuel Macron. Hein. Vous vous prenez en main, vous devez votre monde.
Oui, mais c'est un discours d'irresponsabilité, au fond. Hein. Ah. Si on regarde bien, ça peut apparaître comme le discours, je dirais, d'émancipation sociale, qui est philosophie d'Emmanuel Macron, qui est l'émancipation individuelle, quand il dit à la personne, traversez la rue, vous trouverez un emploi. Mais les Français, n'est-ce pas, c'est un pays de tradition catholique, pas protestante. Donc le salut est un salut collectif et qui se projette. Voilà. Et donc, du coup, ça peut apparaître. On se dit, bah, très bien, il comprend les jeunes, il leur dit qu'ils ont un potentiel et tout. Mais si c'est ensuite de dire, bon, ben, on va vous aider au départ, égalité des conditions, et ensuite, bah, que le, pas que le meilleur, gagne, c'est pas du tout sa philosophie. Mais c'est une forme, dans la tradition française, c'est une forme d'irresponsabilisation.
Loïs Dupérou, vous êtes avec nous au 39-21. Bonjour, Loïs.
Bonjour.
Vous êtes titulaire d'un bac ES, étudiant aujourd'hui en première année de fac d'administration économique et sociale au Centre universitaire du Creusot. Et cher Loïs, hier, vous étiez face au président Macron, entouré par ce millier de jeunes. Est-ce que cet échange avec le président vous a donné envie de participer à d'autres débats, si ce n'est pas déjà votre cas ?
Alors oui, hier, j'ai eu la chance de participer au débat. Après, je ne sais pas si ça m'a convaincu de reparticiper à d'autres débats.
Mais vous avez posé la question, vous avez posé des questions, vous avez pu échanger vous-même personnellement avec le président ?
Malheureusement, non, je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec le président. Ce n'est pas faux d'avoir eu envie.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il y avait
beaucoup de candidats.
Oui, il y en a beaucoup de candidats qui répondaient très précisément à chaque question, au cas par cas. C'était très intéressant.
Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ce moment partagé ?
Hier, j'ai dit à votre collègue que j'en étais sorti convaincu, mais avec du recul, je trouve que c'était pas le bon mot, ça trahit un peu mon ressenti.
Alors, allez-y, corrigez, c'est intéressant.
Oui, parce que je trouve qu'en utilisant le mot convaincu, ça sous-entend le fait qu'il était un peu en campagne pour les Européennes, en opération séduction, comme vous avez dit.
Oui.
Et je trouve plus qu'on en est ressorti, entre guillemets, rassuré.
Oui.
Qu'on avait face à nous un président très proche de nous. Hein. J'ai entendu dire, j'ai lu surtout sur les réseaux sociaux un président, on avait l'impression qu'il était de la même génération que nous.
Oui.
Mais c'est exactement ce qu'on voulait.
Qu'il était en empathie, qu'il vous comprenait, quoi. Ouais.
Exactement. Il a fait du cas par cas, il a su répondre à toutes les problématiques, à toutes les questions que les jeunes lui posaient, parce que nous, c'est aussi ça. Nous, les jeunes, on a aussi nos problèmes.
Ouais. Donc vous l'avez senti, pardon Loïs, proche de vos préoccupations, c'est ce que vous signifiez ?
Oui, ouais. Exactement.
Voilà. D'une manière générale, vous avez quel rapport à la politique ?
Je suis totalement désintéressé des politiciens. Après, la politique, j'en ai un autre rapport, surtout depuis hier. Je me suis un peu plus réveillé.
Vous savez que politicien, c'est un peu, péjoratif. Voilà, merci. Péjoratif. C'est un peu péjoratif. Mais vous dites politicien, d'ailleurs, vous spontanément, vous dites pas politique, parce que vous avez l'impression que cette classe politicienne, en l'occurrence, répond pas à vos attentes.
Non, justement, je différencie ceux qui la font et la politique en elle-même.
Oui, très bien.
Et c'est ça, justement, un peu nous, les jeunes, qui nous désintéressent de la politique, parce que c'était la question aussi, une des questions hier qui a été posée. Et la question que le journaliste m'a posée hier, c'est pourquoi nous, les jeunes, on est désintéressés de la politique.
Oui.
Je pense que on a grandi avec tous les scandales de la politique, des parlementaires ou des ministres, que sais-je encore, qui abusaient de leurs fonctions. C'est pour ça aussi qu'on a perdu un peu confiance. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je voulais lui poser la question, ça m'aurait intéressé qu'il me réponde, qu'il me donne son avis en tout cas sur la déprofessionnalisation de la classe politique, si ça la revaloriserait pas, la rendrait plus citoyenne et plus intéressante pour nous les jeunes.
Bah, ça a déjà commencé un petit peu avec un certain nombre de députés En Marche qui viennent de la société civile justement,
voilà,
à qui on est en train de reprocher de ne pas être assez professionnel et de connaître assez leur dossier. Donc, mais bon, c'est plutôt quelque chose qui vous intéresse sur le fond. Voilà, essayer de redonner de l'espace politique à chacun. C'est ce que vous a dit d'ailleurs Emmanuel Macron hier. Hein. Ce n'est pas une propriété privée, la politique. Vous pouvez vous emparer aussi du sujet. Pour réagir aux propos de Loïs, Jérémy Pelletier, s'il vous plaît.
Il y a un élément intéressant. C'est effectivement, on a grandi avec les scandales, on a grandi avec les affaires. Au-delà de ça, on a grandi aussi, et je le répète, parce que je pense que c'est structurant aussi pour cette jeunesse, avec la crise économique et sociale, où donc de fait, on s'est aperçu qu'on ne pouvait plus forcément avoir confiance envers les responsables politiques, mais également envers les chefs d'entreprise qui, du jour au lendemain, peuvent de toute façon nous virer. Et donc, de toute façon, on ne va plus faire confiance à ces figures d'autorité. Autre élément qui m'intéressait dans ce qu'il disait, c'était qu'il a fait du cas par cas. Je reviens sur ce qu'on se disait tout à l'heure, sur, en gros, à quel moment, finalement, la jeunesse est un peu désengagée de la vie politique. Je crois que l'un des problèmes, c'est qu'en fait, en 15 ans, la jeunesse fait beaucoup moins bloc que par le passé, par une raison simple qui est la jeunesse fait beaucoup moins mixité que par le passé, comme le reste de la population française qui s'est définie de plus en plus en différentes strates, en différents segments. Bon, il y avait de gros blocs de la société française. La jeunesse, c'est la même chose.
C'est-à-dire que cette jeunesse qui s'intéresse à la politique, elle fait partie d'une classe sociale, c'est ça que vous voulez dire?
En fait, il y a une partie de la jeunesse qui, en gros, ne voit plus une autre partie de la jeunesse, mais comme le reste de la population. En 15 ans, 20 ans, par exemple, je donne deux exemples. Le sujet des colonies de vacances, qui est un sujet qui est très important et qui est très intéressant. Mmh. Vous aviez 4 millions de jeunes qui bénéficiaient des colonies de vacances il y a 20 ans, qui était un élément important de mixité sociale, de rencontre avec de jeunes d'autres générations, d'autres univers, d'autres territoires. On est aujourd'hui à 800 000. Uniquement 800 000, quand je dis colonies de vacances, c'est les colonies de vacances classiques tenues par les pouvoirs publics.
Voilà pourquoi
ils
souhaitent un service national universel, pour recréer les conditions de cette mixité.
Donc ça, c'est très intéressant. Évidemment, le service et la suppression, en tout cas, du service militaire a évidemment créé, de fait, une absence aussi de mixité entre les jeunes de ce pays. Et donc, cas par cas, oui, obligé, parce que la jeunesse ne fait plus bloc. Et les différentes jeunesses, évidemment, la jeunesse n'est pas uniforme. Et les jeunes s'aperçoivent très bien que, de toute façon, une partie ne rencontre jamais l'autre.
Merci de cette analyse. Loïs, je vais vous quitter. Simplement, à partir d'aujourd'hui, comment vous comptez vous intéresser davantage à la politique? Parce que vous nous disiez qu'il y a eu un petit déclic quand même hier chez vous.
Je ne sais pas encore. Je ne sais même pas si je vais voter aux européennes, s'il m'a convaincu, parce que je ne me sens pas réellement concerné par une citoyenneté européenne.
Oui.
Mais puis je ne me place pas non plus sur un échiquier politique, comme vous avez parlé tout à l'heure. Alors, vous me posez une colle.
Non, mais c'est intéressant parce que vous avez, on est en février, vous avez trois mois pour réagir et pour vous dire est-ce que je fais l'acte, la démarche citoyenne d'aller voter justement en votre âme et conscience. Mais je vous laisse méditer, vous avez le temps, cher ami. Merci Loïs et à tout de suite avec Stéphane Rosès et avec Jérémy Pelletier. Catherine et Daniel sont au standard, je ne sais pas si on aura le temps de vous entendre, chers amis, mais on fait encore une petite pause et on se retrouve jusqu'à 10h.
Le tour de la question sur le désengagement des jeunes en général pour la chose publique, la chose politique et sur les enjeux électoraux. Wendy Bouchard.
Nous sommes encore quelques instants avec Stéphane Rosès, politologue, avec Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, avec Jean-Seb Desmarais sur Twitter qui nous écrit « Ma crainte d'un tel échange président, catégorie de population, les jeunes, c'est la déception. Car ce sont des mots, des discours qui, s'ils ne sont pas suivis de résultats rapidement, vont provoquer le désarroi. » Stéphane Rosès, c'est ce que nous disons depuis hier maintenant, mais vous aviez juste pendant la pause une analyse assez fine de ce qu'on appelle la reconquête du moment d'Emmanuel Macron, qui passe aussi par cette reconquête des jeunes dans la théâtralité.
Oui, alors ça pour le coup, c'est inédit. On n'a jamais vu qu'un président doive monter une sorte de, à nouveau, mini-campagne électorale dont il est le seul interlocuteur. C'est pas pour se faire élire, c'est pour pouvoir reprendre la main d'un dialogue avec le pays en se mettant au milieu des Français. Et selon moi, ça remontait dans les sondages. C'est pas seulement qu'il a voulu apparaître comme le défenseur de l'ordre républicain face aux violences et tout. C'est que la posture même de se mettre au milieu des Français, c'est une façon d'essayer de se faire réadouber en mettant un genou à terre, de sorte que la symbolique, elle crée son efficace propre. Et on l'a entendu avec votre jeune auditeur. Visiblement, hier, il était sous cette dynamique, et le président aussi. D'où les écarts et les inquiétudes de certains dans les milieux d'affaires en disant « Oh là là, on se calme, hein, on reprend pas une campagne électorale. » Parce que derrière, il y a effectivement, ça a été très bien dit à l'instant par votre auditrice au travers de vous, c'est « Et alors la sortie de tout ça ?» Qu'est-ce qui va, voilà, qu'est-ce qui va remonter? Est-ce qu'on revient à avant l'été quand Angela Merkel dit « je ne boucherai pas les politiques européennes » ou ce que dit le Premier ministre à Berlin « vous inquiétez pas, on va continuer les réformes, ça va y aller, ça va y aller » ou est-ce que c'est la réouverture du SWOTA? Parce que quoi qu'en dise le président, ce soir je vais animer un débat dans ma mairie, j'ai été demandé sur les questions de démocratie et tout, dans le 5e, donc ma mère du 5e m'a demandé. et donc j'y vais, mais évidemment, contrairement à ce que dit le président, ça va être open bar. Parce que quand les gens s'expriment, soit ils s'expriment, soit ils ne s'expriment pas. Oui. Et là, ils s'expriment sur le souhaitable et pas arriver sur le possible.
Bon, il nous reste 3 minutes, mais je tenais à vous entendre, Daniel de Chalon-sur-Saône au 39-21. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors je vais vous demander de faire court, mais j'aime bien votre témoignage sur Macron face aux jeunes hier. Qu'est-ce que vous en retenez justement ?
Alors, deux choses. La première, c'est que c'est une formidable expression démocratique, même si cela a été préparé par les lycéens et les étudiants.
Est-ce que vous pouvez bouger un petit peu, Daniel, parce qu'on vous perd, on perd la connexion. Donc, vous disiez formidable moment démocratique, très bien.
Voilà. Et ensuite, moi, j'ai une proposition. Et je me trouve juste à côté de Verdun-sur-le-Doubs, où là, Stéphane Rosès va se rappeler qu'il y a eu le discours du bon choix. Je crois que M. Macron pourrait s'inspirer. Oui, le bon choix, oui. C'était en 1978. Oui. Je crois qu'il pourrait s'inspirer de ce qu'a fait Giscard d'Estaing lorsqu'il a donné le droit de vote, et moi j'en fais partie de la génération qui a eu le droit de vote à 18 ans, c'est pourquoi ne pas donner le droit de vote à 16 ans. Je rappelle que ça existe notamment en Autriche, et je trouve que ça serait une concrétisation. Alors c'est pas la seule piste, hein. Je crois qu'il y a d'autres leviers pour intéresser la jeunesse à la vie politique.
Merci Daniel. Alors je vais vous donner la parole, Jérémy Pelletier. Il me semble que dans la campagne 2017, Emmanuel Macron avait écarté cette hypothèse. Droit de vote à 16 ans, ça lui paraissait une fausse solution. Mais Daniel, on va vous répondre.
Oui, absolument. Je crois que c'était pas en tout cas évoqué comme une proposition. Non. Effectivement, qu'il pouvait prendre à sa charge. Non, mais c'est un débat qui revient souvent sur le droit de vote à 16 ans. Moi, je ne suis pas convaincu que mettre le droit de vote à 16 ans est quelque chose qui va, de fait, intéresser davantage les jeunes à la chose publique et à la chose politique. Je serais plus partisan de débattre du sujet du vote obligatoire à partir de 18 ans. Surtout que l'allongement de la durée de vie et les changements de mode de vie ont fait que les rites de passage qui étaient nos rites de passage passés entre la sortie d'un moment adolescent à un moment adulte se sont décalés et se sont rallongés. Et donc, de fait, je ne crois pas qu'avancer le droit de vote soit forcément une réponse.
Mais c'est une proposition, Daniel, que vous pouvez faire remonter au gré du grand débat, Julie, pour terminer.
Moi, ce qui m'a frappé au cours de cette émission, on a cité beaucoup de présidents de la République, mais il y en a un qu'on n'a pas cité. Et pourtant, sous son mandat, on a créé un slogan qui associait génération au nom du président, donc qui créait une filiation entre la jeunesse et le président. C'était Mitterrand. On parlait de génération Mitterrand. C'était peut-être juste un slogan, mais quand même, c'est symptomatique d'un président qui était fédérateur, je trouve, pour la jeunesse.
Oui, sans doute. C'était un président sans doute fédérateur pour la jeunesse, mais d'une jeunesse sans doute aussi beaucoup plus...
Politisé
par la chose publique, beaucoup plus politisé, et on l'a dit, beaucoup plus de gauche.
Merci Jérémy Pelletier. Je dois vous interrompre, je suis désolée, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, et je vous renvoie à un certain nombre de publications sur leur site. Stéphane Rosès, politologue, président de la société Conseil, Analyse et Perspective, enseignant à Sciences Po et HEC, et donc animateur de débat aussi à Paris dans le 5e arrondissement aujourd'hui.
Ce soir, 19h, venez nombreux.
Merci Stéphane, et on fait une petite pause avant de s'intéresser à la musique du moment, aux artistes du moment, 34e victoire de la musique ce soir sur France 2.